Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein.
Quand elle a son poum poum shot, et son problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Boy, quand elle whine dans son shot, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé, bien sûr qu'elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir, boy, car ça devait finir comme ça.
Bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs et auditrices de l'autre radio, bienvenue dans Sorcières, l'émission mensuelle entièrement conçue par des femmes. Cette émission est un miroir de ce que nous écoutons, de ce que nous lisons, de ce que nous voyons, de ce que nous analysons, ce qui nous passionne. Et il est 19h et vous êtes bien donc dans l'émission
Sorcières.
J'ai toujours trouvé que c'était un chouette nom d'émission, vous trouvez pas ?
Ah bah si.
Historiquement, la chasse aux sorcières visait les femmes qui déviaient les normes imposées par une société dominée par des structures patriarcales. On n'apprend rien jusqu'à maintenant. Mais le féminisme a transformé ce symbole de persécution en un emblème de résistance et d'émancipation. Les sorcières sont aussi souvent associées à la sagesse ancestrale, à la connexion avec la nature, aux pratiques de guérison alternatives. Et cette vision plutôt positive de la sorcière promeut l'autonomie, une forme de connaissance non hiérarchisée, opposée au modèle traditionnel d'autorité. Elle valorise des savoirs, des pratiques qui échappent au cadre dominant. Donc finalement, si les sorcières transmettent leur savoir à toutes, comme dans ce studio, après des mois de pratiques ensemble, mais en fait, les sorcières font de l'éducation populaire. La figure de la sorcière, longtemps caricaturée comme maléfique, dangereuse, est ici revalorisée pour incarner la puissance féminine qui fait la peau aux inégalités. Ça permet de créer un espace où la créativité, l'indépendance et la pluralité des vécus féminins sont célébrés. En tout cas, c'est ainsi que je vois cette émission. Ici, pas d'oppression par le mansplaining. Les savoirs de chacune sont sublimés par le micro. La radio offre en effet un espace libre d'expression où nos voix prennent toute la place, libre, audacieuse. Ici, on conjure ensemble les silences imposés. Nous habitons pleinement l'espace sonore et ce soir encore, nous vous invitons pour une traversée d'une heure. Et en ce mois de février, nous sommes 6 dans le studio. Alors, 4 chroniqueuses, 2 techniciennes et une animatrice. On va revenir sur cette drôle d'addition. Avec sa bouche de miel, c'est Amandine qui va ouvrir cette émission. Tu nous plonges dans l'univers fascinant et troublant de David Lynch, réalisateur dont les personnages féminins sont à la fois puissants et tourmentés. Une chronique envoûtante portée par le compositeur des musiques de Twin Peaks, Angelo Badalamenti.
C'est ça, quelle entrée en matière, merci.
Et il faut savoir que je me suis permis ce petit compliment sur ta bouche de miel, Amandine, car tu portes un magnifique bijou d'abeille, pollinisateur ou en tout cas butineur peut-être.
C'est ça.
Au-dessus de la lèvre. Et donc, si je ne m'abuse, ça me permet de faire le lien avec ta chronique.
Transition de ouf.
De quoi tu nous parles ce soir?
Des néonicotinoïdes.
Ça fait combien au Scrabble, ça?
Ah, tu pètes tous les scores. Tu bats même grand-mère. Fini.
Adeline, toi, tu nous emmènes à la rencontre de Kay Tempest, artiste, poète à la voix remarquable. Je crois d'ailleurs aussi avoir lu une de ses pièces de théâtre, donc ouais. Aussi auteur.
Auteurice.
Et tu nous présentes son parcours et deux de ses morceaux, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. C'est ça. Bonsoir.
Et là, si vous avez bien compté, vous vous apercevez que notre dernière chroniqueuse, elle est aussi notre technicienne.
Bonsoir.
Elle est badass parce que voilà, elle a quand même deux rôles dans cette émission. Et elle nous rejoindra pour la dernière chronique de cette émission. Morgane, tu vas nous parler de quoi ce soir ?
Je vais vous parler d'une BD. Je vous en dis pas plus.
Okay, le suspense. Teasing.
Le teasing de ouf.
Et elle est badass, c'est certain, mais elle est aussi en bonne compagnie, en compagnie de Stéphanie, qui dû venir en dilettante, mais qui finalement fait un peu de technique.
Alors, oui.
Assez pour réfléchir à deux cerveaux et ne pas déranger Joël.
Oui. Oui, on se partage la technique, enfin, on essaye. Enfin, ça va être surtout toi, puis moi, je fais l'inspecteur des travaux finis.
Il faut bien que tu viennes en dilettante un moment.
Oui, c'est ça.
En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Installez-vous confortablement, prêtez l'oreille, laissez-vous porter, car c'est Amandine qui prend le micro.
J'ai été élevée comme une fille. J'étais élevée, je faisais la vaisselle, je participais à la vie des femmes. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, si vous voulez, j'ai confiance dans les femmes. Elles sont pas vraiment des adultes, elles sont des femmes. Pas des sœurs, pas des mères, des femmes.
Je n'aime pas cette forêt sinistre. On dirait qu'elle cache des tas de pièges.
Galvanisé par la foule, Elon Musk entre en scène dans un état d'excitation plus que visible. C'est alors qu'il effectue ce geste qui sème le trouble. À deux reprises, il frappe sa poitrine avant de tendre son bras.
Oh, bien sûr, je n'en sais rien, mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ça présente des dangers.
Est-ce qu'il n'y a pas des bêtes féroces qui se cachent dans cette forêt ?
C'est possible.
Oh !
Des animaux qui mangent de
la paille ?
On trouverait plutôt des lions, des tigres et des panthères.
Des lions ?
Des tigres et des panthères.
À l'actualité également, la mort d'une figure du cinéma américain et mondial.
Oui, le réalisateur David Lynch est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. David Lynch qui avait fini par habituer les spectateurs à son univers si étrange et si fascinant.
Oh, des lions, des tigres et des panthères, oh mon Dieu. Des lions, des tigres et des panthères, oh mon Dieu. Des lions, des tigres et des panthères, oh mon Dieu. Des lions, des tigres et des panthères, oh mon Dieu. Des lions, des tigres et des panthères.
Et donc, comme vous avez pu l'entendre ces derniers jours, David Lynch est décédé en ce début d'année 2025. Artiste à part entière, peintre, musicien, réalisateur et j'en passe, mais surtout un human being d'abord, David Lynch, c'était surtout un univers teinté de questionnements sur la nature humaine, de musique grésillante et scintillée, de violence et amour, entre fantasmagorie et réalité. Personnellement, j'ai rencontré son univers autour d'une machine à café, là où un ancien collègue, un tantinet cinéphile, m'a dit « Attends, tu connais pas Lynch, quoi ?» Sur le retour du travail, entre This is America et La seule alternative d'après Julien Barthélémy, j'étais déjà à la recherche d'un de ses films à regarder le soir même. Alors j'aurais pu parler de bien des œuvres de David Lynch, je me suis remémorée parmi toutes celles que j'ai découvertes, celle qui m'a le plus touchée, forgée, celle qui a participé à façonner mon regard sur le monde, ma manière d'intégrer ma culture et celle des autres, celle qui m'a ouvert les yeux sur l'amour que je portais à tous, dans les habitudes, les mimiques, les personnalités si particulières. Aujourd'hui, je vais vous parler de Twin Peaks. Mais qui a tué Laura Palmer ? C'est la question qui flottait au-dessus des années 90. Petite ville sans histoire, Twin Peaks est bouleversée par le meurtre d'une jeune adolescente populaire et presque parfaite. On accompagne donc l'agent spécial Dale Cooper, FBI, qui tire le drap qui nimbe ce mystère. La série débarque en 90 comme un tsunami sur le petit écran, avec des odeurs d'apple pie, de café noir et un style soap-opéra qui glisse vers le surnaturel inexplicable. Écrite et réalisée par Lynch et Frost, elle oscille entre la réalité et l'éloge mystérieuse, sous une tonne de donuts tous plus sucrés les uns que les autres, la vie à Twin Peaks va devenir un théâtre de bien des surprises. Et c'est là qu'on rencontre une galerie de personnages humains, complexes et versatiles dans leur représentation. Tout n'est pas aussi beau qu'en surface. Sous ces tonnes de vestes en tweed, en jupe en laine, de tartans, de pulls, ce temps automnal où le deuil de Laura semble durer une éternité. On va surtout découvrir un monde sensible, un monde parallèle qui s'ouvre par deux loges, la blanche et la noire. Symbolisation de la peur et de l'amour, cette série cotonneuse va en fait traverser toutes les arcanes du tarot, du battleur au pendu, de la papesse à la mort, pour enfin arriver sur la carte du monde, retourner dans ce tyrannie schlinchien. Que craignez-vous le plus au monde ? Demanda Wyndham Earl au Major Briggs alors qu'il sera entre la vie et la mort. Il lui répondra, la possibilité que l'amour ne suffise pas. Cette série que j'ai découverte adolescente m'a marquée par la sincérité de ses dialogues, pourtant mystiques et ponctués d'énigmes. Chaque personnage a sa propre quête intérieure. Comme nous, en fait, à chaque période qu'on traverse dans nos vies. On s'est toutes posé des questions existentielles sur notre place, notre rapport à l'amour, à l'injonction, aux consommations, à ce côté sombre enfoui en nous et à celui lumineux qui porte nos plus beaux souvenirs. Moi, ce qui me fascine dans cette série, c'est la force sincère des personnages masculins, mais surtout féminins qui luttent et qui continuent d'avancer malgré les différentes épreuves rencontrées. Violence conjugale, amour brisé, lutte contre les addictions, guerre intérieure, mort. Ces femmes, elles représentent dans le premier abord des archétypes classiques, la victime, la femme fatale, la muse, mais elles enrichissent leurs couleurs par leur complexité tout au long de la série. Pour faire un petit palmarès de tous ces personnages, il y a forcément Laura Palmer, l'héroïne principale et le fantôme de la ville de Twin Peaks, qui est un exemple de jeune femme brisée dans le foyer familial qui court après la paix intérieure. Parfaite en surface, présente pour les autres, elle fuit en fait un père assassin, elle se reclut dans la drogue comme exutoire. On suit un personnage en fait complexe, un prisme de réflexion multiple. Entre ombre et lumière, elle tente de trouver sa place dans ce monde qui l'exploite. Il y a aussi Audrey Horne, qui, elle, est fille du patron du seul hôtel de la ville, qui commence en étant une jeune femme immature, presque insupportable. En fait, elle s'ennuie réellement, et elle devient une figure forte, au fur et à mesure, prête à agir contre la sexualisation des femmes, de là à aller contre les diktats imposés dans sa propre entreprise familiale. Elle dépasse le rôle d'objet de désir, et elle devient une actrice investie de son émancipation. Elle prend part à l'enquête, elle révèle toute sa personnalité et devient un personnage emblématique. Dans ceux qui ont le moins réussi, on peut encore parler de Shelley et Norma, qui sont deux femmes que des dizaines d'années séparent, mais elles partagent le même lieu de travail et aussi la même peine amoureuse. Elles sont en tout point dans les mêmes schémas. Schéma de la prison domestique, elles sont bloquées dans des relations toxiques avec des hommes violents. L'une et l'autre ont beau essayer de les fuir, elles y reviennent toujours comme un aimant, symbole que le départ n'est jamais aussi simple. D'autres encore, comme Maddie et Norma, dans l'ombre de Laura, tentent de se reconstruire après ce drame qui est un deuil. Dans des passages entre l'adolescence et l'adulte, qui se questionnent sur leurs ressentis en toute sincérité. Le courage de communiquer, d'être soi, d'apprendre à se connaître dans toutes les périodes troubles que la jeunesse peut nous faire traverser. Twin Peaks, comme d'autres de David Lynch, présente des femmes fortes, des rôles somme toute classiques au départ, mais qui démontrent que se rebeller ou se transenter de sa condition est une lutte quotidienne, intérieure et sociétale. Mis à part dans le contexte où l'aspect capitaliste règne en duel avec Catherine et Josie, où l'argent passe avant la recherche d'humanité et la sororité, même si elle est timide concernant les combats à mener de chacune, on peut retrouver une mère et sa fille, deux amies, une ancienne rivale et une femme qui se reconstruit. Cependant, ce joli tableau, je l'ai re-questionné avec mon regard de moi, aujourd'hui en 2025, et même si ces femmes sont conscientes de leurs conditions ou presque, leur évolution en général n'est que minoritaire dans les émancipations. Elles sont majoritairement emprisonnées par leur rôle de femme au foyer, de business girl ou de fille amoureuse qui attendent le prince charmant. On peut se questionner sur la vision que Lynch et Frost nous apportaient de la femme parfaite, héritante de son rôle de housewife des années 50. Exemple typique à la fin de la série, le concours de beauté qui remet gentiment à sa place des femmes qui vivent au jour le jour pour leur propre émancipation. Alors, est-ce que les personnages de David Lynch, finalement, se développent, s'émancipent encore une fois, ou sont condamnés à souffrir indéfiniment ? Comme un miroir brisé, chacune et chacun détient ce bout de verre dans ses propres mains, sa propre vérité, avec son angle de vision personnel. C'est un débat qui existe, en tout cas, dans l'espace public. Si moi, j'avais pu leur parler, si j'avais pu leur écrire à ces personnages, je leur aurais dit qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se retrouvent. Elles se construisent ensemble des réflexions, des outils, comme ici, à Sorcières par exemple. Je leur dirais aujourd'hui qu'encore 94% des 15-24 ans des femmes estiment qu'il est difficile d'en être une. Mais aussi que 62% des Français partagent leur avis, selon le dernier rapport sur l'état du sexisme en France. On peut aussi dire que 54% des hommes sont conscients par exemple de la gravité du procès Pellico et qu'ils deviennent de plus en plus alliés à notre lutte. Je leur dirais que le féminisme progresse malgré le masculinisme et que des femmes comme Coral Herrera Gomez existent. Chercheuse en sciences humaines, elle étudie depuis 15 ans l'amour romantique et les relations de pouvoir et de soins. Que des initiatives qu'elle a lancées comme El Laboratorio de la Mort, désolée pour l'accent. C'est un laboratoire qui propose aux femmes de construire ensemble des réflexions, des outils pour sortir du patriarcat existentiel et dominant. L'amour est un merveilleux outil de transformation individuelle et collective, dit Coral Herrera Gomez, tout comme le Major Briggs. Nous pouvons abolir les hiérarchies de lutte, de pouvoir entre nous, construire nos relations avec les autres bases, avec les autres sur des bases de tendresse, d'empathie, de générosité et de solidarité. Ça, c'est encore Coral Herrera Gomez. Je rajouterai à tous ces commentaires d'hommes et de femmes apeurés par le changement que je vois ou j'entends. Cela n'arrache aucune masculinité ou crédibilité à votre personnalité. C'est politique, ça sauve des vies et c'est comme les échantillons de fromage au supermarché, c'est meilleur quand c'est gratuit. Aujourd'hui, l'héritage de Lynch passe aussi par des jeux vidéo comme Life is Strange ou Twimble Park ou dans la BD avec Black Hole de Charlotte Vance et des créations de Daniel Clough aussi. On y retrouve des personnages développés avec leur propre nature, complexité et nuancier dimension. Comme nous. Mae, dans le jeu Night in the Wood, n'est pas loin d'être une amie proche de Laura Palmer, et Twin Peaks, une village jumelé, tant les similitudes sont proches. Toutes ces créations peuvent s'élever au même questionnement. Qui suis-je ? Suis-je animée par l'amour ou la peur ? Serais-je assez courageuse pour me découvrir et découvrir les autres ? En attendant, je vous laisse avec une interview depuis la White Lodge d'un critique de cinéma 100% local, 100% mayennais, Thomas Puteau, qui a pris la grande responsabilité de parler de Lynch en tant qu'homme, en tant qu'artiste, avec une grande justesse.
Si une formule est bien à prohiber suite au décès de David Lynch, c'est bien la mention récurrente de vide laissé suite à la disparition de l'un des plus grands artistes du 20e et 21e siècle. Pour se circonscrire uniquement à son cinéma, seulement 10 films, Lynch a posé autant de jalons marquants de l'histoire du cinéma américain. À chaque fois que l'on regarde un film de Lynch, rien ne semble s'épuiser. Ni la qualité de l'expérience, ni le mystère de ses œuvres, et encore moins les lectures songeuses que nous avons à en faire. En résumé, si le feu californien l'a en quelque sorte emporté, la flamme du cinéma de Lynch semble incapable d'être réduite en cendres. Je ne reviendrai pas sur les histoires d'amour dysfonctionnelles, les mises en abîme, les boucles et leur réversibilité fantastique toutes plus renversantes les unes que les autres, parce que moi, ce qui me fascine chez Lynch, c'est son rapport au mystère de la matière. On fera pas le parallèle de réalisateurs contemporains avec Lynch, parce que ce serait cruel pour 99% des cinéastes. Pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que Lynch fait partie, encore aujourd'hui et au-delà de sa mort, de ces rares réalisateurs qui sont avant tout des artistes. Lynch est un magicien, un descendant certain de Méliès, et comme Hamaguchi ou Apichakong vers Assetakul, ce sont des cinéastes qui rendent une matérialité mystérieuse aux objets qu'ils filment. Lorsque je regarde un film de Lynch, un arbre semble plus vrai, plus habité, que ceux qui bordent les chemins que j'emprunte au quotidien. Pourtant, tout cela n'est que fiction, mais c'est toujours l'enjeu de l'art, éveiller les consciences. Et lorsqu'on aborde le cinéma de Lynch, il ne s'agit pas de déplier les milliers de mystères qui composent son œuvre, mais il s'agit finalement d'être ouvert au caractère sensitif des images qu'il nous propose. Chez Lynch, nous regardons, et nous regardons vraiment. D'abord avec les yeux, certes, mais pas uniquement. Finalement, Lynch nous invite à ne pas être des théoriciens du cinéma, ni des chercheurs de sens, mais des êtres sensibles. D'ailleurs, à jamais, Lynch aura lutté contre l'explication rationnelle de ses propres films. Entre autres choses, je pense qu'on peut dire qu'il nous laisse des merveilleux cauchemars, l'idée inquiétante que le cinéma comme nos vies ne rime à rien, et le rêve d'un feu qui ne mourra jamais, celui de son âme.
Bonjour, je suis David Lynch, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Vive les sorcières, meilleure émission que j'ai jamais écoutée. Bisous bisous.
Waouh, merci Amandine pour cette immersion dans l'univers lynchien. Lynchien. C'est la première fois que je dis ça.
Lynchien.
Lynchien.
C'est le mot de la l'émission.
C'est, ouais, je suis contente que tu aies parlé de Twin Peaks parce que je l'ai regardé quand la troisième saison est sortie.
Ouais.
Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'à la fin de la deuxième saison, lors du dernier épisode, ils disent rendez-vous dans 25 ans.
C'est ça.
Et la troisième saison est sortie 25 ans plus tard. Avec des mêmes acteurs et actrices, enfin en tout cas certaines, et libérée aussi du cadre que permettait la télévision 25 ans plus tôt, donc avec aussi de l'expérimentation et l'expression de David Lynch dans toute sa splendeur dans la saison 3. Mais ça me donne bien envie de le re-regarder. Vous les sorcières, vous...
Bah, moi déjà, Amandine, merci de nous avoir lynché comme ça. Ça fait du bien, ça faisait longtemps. J'ai une question. Qui a tué Laura Palmer ? Est-ce que indirectement, ça a inspiré qui a tué Pamela Rose ?
Ah oui, c'est une question que je me posais aussi.
Je crois que oui, hein. C'est ça, c'est pas une connerie. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont...
Je crois qu'il y a un truc comme ça. Faudrait vérifier, mais je pense que t'as tes sources.
KDO, vous pouvez nous appeler ?
Après l'interview posthume de David Lynch, peut-être que tu pourrais nous faire ça, Amandine.
Ah mais oui, une interview de KDO. Eh bien écoutez, je les interview la prochaine fois. Je prends rendez-vous maintenant.
Paix à leur âme.
Moi, je me souviens que de Mulholland Drive de David Lynch et j'avais rien compris.
Ouais, moi aussi.
C'est voilà. Ce qu'on se disait.
À part une que blonde et une brune qui s'emballent sur l'affiche.
Qui sont en fait la même personne, si j'ai bien compris.
Ah, ça, je ne sais pas. C'est une interprétation. Ouais,
il y a plusieurs univers imbriqués, on ne sait
ouais,
pas.
Ouais, c'est jamais trop explicable.
Twin Peaks, j'arrête pas d'en entendre parler. Hein. Bah, ouais. Je viens de comprendre pourquoi, s'il sort une série 25 ans après, j'arrête pas d'en entendre parler en disant « Ah, c'est une série géniale, les années 90 !» Et je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce laps de temps? Pourquoi personne m'en a jamais parlé ?»
Bah parce qu'on tout le monde attendait la troisième saison.
Ouais, c'est pour ça. Ok, et ce que j'aime avec Amandine, c'est qu'elle vient toujours nous parler de jeux vidéo, de oui. Trucs qu'on comprend pas.
C'est vrai, j'avais parlé de jeux vidéo la dernière fois.
Tu nous rajeunis les sorcières, c'est cool.
Une chronique jeux vidéo, alors bientôt.
Moi, j'avais entendu une super émission sur une radio concurrente avec Frédéric Sigris sur One Piece et Twin Peaks, pas One Piece.
Voilà,
le mélange One Piece, machin. Non, et du coup, c'est vrai qu'il m'a donné envie et toi, tu me donnes encore envie de. Bah, faut que je m'y remette, quoi. Voilà.
De voir cette série.
Bah, je l'ai vue, mais il y a longtemps. Je suis vieille.
Après, je crois que cette série, pour le coup, si je dis pas de bêtises, quand elle est arrivée dans les années 90, il y avait que des séries soap, justement, savonneuses, là, les séries américaines, Dallas et c'est tout, qui sont un peu aussi toujours présentes, mais avec les telenovelas. Et en fait, Lynch est venu apporter son regard d'auteur et d'artiste. Mmh. Et ce qui fait que quand il a apporté Twin Peaks avec Frost, ils ont développé des vrais personnages et des vraies intrigues. Et donc, ça a fait exploser un peu la possibilité de créer des histoires sur le petit écran. Et en fait, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui en série, c'est l'héritage de tout ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été aussi marquant quand on l'a tellement rabâché, oui. Stéphanie. Peut-être c'est ça. Et puis, c'est vrai que du coup, c'était la première fois qu'il y avait ça sur le petit écran. Il y a un moment où Lynch, lui, en tant qu'artiste, s'est même débouté un peu du projet et a dû revenir pour une fin, comme tu disais, Priscilla, hors micro, hyper retournante.
Ah, ça tourne au fantastique.
Oui, ouais.
Je ne sais pas si on peut dire la fin, mais en gros, bah t'as... Faut pas le dire.
Bah non, je ne l'ai pas vu.
Ouais. Faut pas le dire.
Ah, si je te dis le mot, ça se trouve, tu ne sais pas ce que c'est.
Non, mais disons qu'il fallait trouver une finalité pour les spectateurs du petit écran. Et en fait, on a dû combler ça avec une réalité et ce qui faisait résonance avec les personnages féminins. Mais il y a toujours cet aspect de Lynch qui aime beaucoup mettre du « on ne comprend pas ». En fait, ouais. C'est vraiment une pincée de « il n'y a pas d'explication ». Et je crois que c'est sa signature, quoi, de faire des choses oniriques où il veut jamais s'expliquer. De toute façon, il s'expliquera plus jamais d'ailleurs sur ses œuvres, mais il a jamais voulu s'expliquer là-dessus. Voilà, c'est un peu sa signature.
En tout cas, c'était beau quand même, toutes ces marques dans le milieu cinématographique, de respect à sa mort. Enfin voilà, ça reste un grand réalisateur, un grand personnage. Et bon, bah, j'espère qu'il ne fera pas partie de tous ces porcs. Un jour, on saura un dossier.
On croise les doigts. C'est horrible, mais en écrivant ma chronique, je me suis posé la question de est-ce que je suis pas en train de remettre quelqu'un sur la scène qui, on ne sait pas, malheureusement, on saura peut-être bien plus tard, mais
C'est pour ça qu'il fallait remettre beaucoup de recul sur tout ça, je pense. Voilà.
En tout cas, il a amené des personnages complexes, tu nous l'as bien exprimé, avec des types de relations qui sortaient de ce qui pouvait être donné à cette époque-là à l'écran. Et pour prolonger cette atmosphère envoûtante, je pense qu'on peut passer un morceau que tu as choisi pour nous, Amandine. Ça sera Chérie de Chromatics.
Thank you.
Et c'était très beau. Merci pour ce choix musical. Alors, les néonicotinoïdes.
Salut auditeurice et salut mes sorcières mal aimées. Oui, je dis mal aimées, car je suis triste et je suis colère, très colère. Et c'est pas bien quand je suis très colère, parce que alors je deviens toute rouge et j'ai la veine du front qui grossit et qui pète. Je me crispe comme Marine Le Pen devant un bateau de migrants qui n'a pas chaviré en Méditerranée. J'écume comme DSK devant une femme de ménage. Ouais, vieux bail, si tu connais pas, c'est que tu as moins de 30 ans et donc je te honnis. Bref, je me transforme en Hulk tomate. Je suis à deux doigts d'arracher mes vêtements. Et t'as pas envie de voir ça. Sur le coup, ça pourrait te chauffer, certes. Mais je te jure, auditeuriste, t'as pas envie de voir ça. Stop de car. Fini la taille de guêpe, bienvenue le cul d'abeille. Justement, on y vient. Vous connaissez les néonicotinoïdes? Ouais, on dirait un truc charmant, comme trois enfants. Il y a Néo, Nico et Tino qui se baladent. Et ils meurent parce qu'ils ont respiré un épandage d'insecticides. Bon, ça marche pas tout à fait comme ça, mais j'exagère à peine, franchement. Parce que si Néo, Nico et Tino, c'était des abeilles, eh ben ça se passerait comme ça. Les néonicotinoïdes. Entre parenthèses, Sartek, merci, hein, les séances d'orthophonie en CM1 avec Madame Saussure, hein. Oui, oui, je prononce bien. Donc, cette merde-là, les néonicotinoïdes, c'est une molécule organique dérivée de la nicotine. Donc déjà, ça annonce pas grand-chose de bon. Utilisée principalement comme insecticide en ciblant le système nerveux central des insectes. En gros, en le respirant ou en l'ingérant, l'insecte se retrouve kéblo, comme moi, dans mon jean slim taille 36, 38 ou même 40. Bref, adios l'insecte. Et là, pas de hasta la vista baby, hein, parce que c'est définitif. Sauf que c'est très dangereux pour l'écosystème, car l'insecticide est mis en terre avec la semence directement pour la protéger dès l'origine. Ce qui signifie que la plante... Non, j'ai pas de jeu de mots avec semence. Ce qui signifie que la plante absorbe totalement cette substance, de la racine jusqu'aux feuilles. Bon, on va me dire, ouais, mais tu sais, ça remplace les pesticides organophosphorés qui étaient beaucoup plus toxiques. Donc, entre deux mots, faut prendre le moindre. Rassurez-vous, les néonicotinoïdes, on ne l'utilise plus. Enfin, si, ou presque, mais je vais vous expliquer plus tard. Parmi les effets négatifs sur les populations d'abeilles, eh ben oui, parce qu'on en vient aux abeilles, hein, d'où le cul d'abeille, il y a la désorientation. Ainsi, les abeilles ne peuvent plus rentrer dans leur ruche et donc, in fine, elles meurent à cause de ces néonicotinoïdes. Toi-même, tu sais, quand tu as trop picolé, que tu retrouves plus tes clés et que tu sais même plus où t'habites, tu es démuni, comme une soirée sans pêche XXL sur RMC Story. Eh ben imagine, pour l'abeille, c'est pire quand elle est perdue, car elle est faite pour vivre en collectivité. De même, cela réduit sa fertilité, sa capacité à se nourrir. Si bien qu'en septembre 2018, ces néonicotinoïdes ont été interdits en France. Oh, bah la maîtresse, elle était contente, elle a donné un bon point à Macron, hein. Sauf que le gars, il l'a pas fait par conviction écologique. Même si je crois bien qu'il fait pipi sous sa douche, comme le préconise Nicolas Hulot. Mais il l'a fait parce que la Cour de justice des communautés européennes a interdit leur usage. Allez, un petit coup de règle sur les doigts. Et si ça ne vous convainc pas, cette nocivité, ben sachez que ça a aussi un impact sur les humains, et notamment sur leur système nerveux. Il n'y a qu'à vérifier, hein, puisque entre-temps, leur utilisation a été de nouveau autorisée par dérogation pour les betteraves. Eh ben moi, quand je mange des betteraves, je fais pipi rose. Hasard, je ne pense pas. Sérieusement, on est face à une bombe écologique. Et voilà type qu'un génie, un grand défenseur du géant vert, le sénateur de Haute-Loire, Laurent Duplomb, nous relance en janvier 2025 une proposition de loi pour autoriser à nouveau, roulement de tambour, si vous n'aviez pas reconnu, les néonicotinoïdes. Oh, quel suspense, digne d'un épisode de Jeu de Trône. Plus précisément, ce monsieur Duplomb prône l'utilisation de l'acétamipride et du flupyradifurone. Waouh, si ça, c'est pas des noms d'infections sexuellement transmissibles, j'arrête mon abonnement à YouPorn.
On en apprend tous les jours dans Sorcière.
Alors oui, je suis consciente qu'il faut faire un effort et moi je veux bien réduire ma consommation de sucre pour réduire les pesticides. Mais en parallèle, je ne veux pas qu'une personne qui a un intérêt financier fasse adopter une loi qui ruine mon avenir. Ah bah oui, parce que monsieur le sénateur Duplomb, il est agriculteur. Alors dans la Haute-Loire, pour la petite histoire, donc c'est peut-être pour ça qu'il doit s'ennuyer là-bas, donc il lance des lois comme ça, on lui pardonne. Mais il a aussi été président de la FDSEA, membre du conseil de surveillance de Candia. Ah bah tu le sens arriver, le conflit d'intérêts là ? Bon coup de dard dans les parties. Et il n'est pas à son coup d'essai, parce qu'innocemment, comme ça, en scred, il a présenté un amendement au projet de loi de finances visant à supprimer l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Mmh. Oh, mais les coïncidences, c'est fou, hein. Si j'étais un tant soit peu de mauvaise foi, et tu sais, auditoriste, que je ne le suis pas, je me dirais qu'il n'aime pas trop ça, l'écologie, ce monsieur Duplomb.
Non, il s'appelle Duplomb.
Mais il a une bonne raison. Attendez, il a une bonne raison. La compétitivité de l'agriculture française face aux autres pays qui, eux, utilisent ces produits néfastes. Maîtresse, maîtresse, c'est l'Allemagne qui a commencé d'abord. Petit souvenir pour mon tonton Yoni. Ben oui, pourquoi vouloir faire mieux que les autres et être un modèle quand tu peux faire de la merde comme tout le monde ? Ah, ça doit être reposant d'être l'enfant de ce sénateur. T'as eu combien en SVT ? 8 sur 20 ? Et c'est quoi la moyenne la plus basse ? 3 ? Oh bah faut arrêter de bosser là, tu vas pas finir prix Nobel du quinoa non plus. Allez, fous tes cahiers au feu et on va aller chasser du panda. Par ailleurs, faut savoir que ce monsieur Duplomb, il a soutenu l'investiture de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains. Ça me rappelle une petite blague, enfin une petite citation sur Voltaire dans Zadig. En 1748, il disait « Mieux vaut innocenter un coupable que de condamner un innocent ». Bah du coup, c'est devenu la devise du parti Les Républicains. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'avec un tel pédigré de droite, c'est drôle qu'il veuille réintroduire le gaucho. Bah ouais, le gaucho, c'est le nom commercial des néonicotinoïdes de Bayer. Alors oui, les néonicotinoïdes sont efficaces, d'accord. Mais c'est bien ce qu'on leur reproche, c'est d'être efficaces sans distinction des espèces. Ils protègent les cultures des dévastations par les pucerons. Apparemment que les pucerons verts, hein, pas les noirs, les marrons, juste les verts. Vous apprécierez l'ironie de la chose. Mais le problème, c'est qu'ils dévastent aussi les autres espèces d'insectes, dont nos abeilles si précieuses. Mais bon, il paraît que c'est moins pire que les autres pesticides. Alors, en fait, réintroduire ce pesticide, c'est comme si ton mec qui t'a refilé des morpions te disait... Eh, ça va, hein ? Ça pourrait être pire, ça pourrait être une blénorragie. Oh bah oui, c'est vrai, en fait. Merci, mon chéri. Excuse-moi, je suis si sotte. Il y a pourtant des alternatives écologiques, comme les coccinelles, par exemple, prédatrices naturelles des pucerons. Miraculous Ladybug ! Bah ouais, ça vient de là. Et puis, sans abeilles, qui va polliniser ma petite fleur ? Et les arbres fruitiers ? Ah bah réponse toute faite, hein, des abeilles drones. Oh c'est tellement mignon un bout de métal pour te faire titiller le pistil. Et pour le miel ? Ah bah tant pis, on prendra celui que produisent les oreilles des sénateurs, qui les rend sourds aux cris de désespoir de la planète. Alors attendez, monsieur Duplomb s'explique, hein, je le cite. On me disait que mon texte était beaucoup trop clivant, mais il a infusé dans les esprits. Oh bah oui, si tu leur as servi un thé infusé au gaucho, ça n'aide pas à avoir les idées claires, hein. Alors oui, monsieur le sénateur Laurent Duplomb, votre proposition de loi a été votée par le Sénat, assemblée la plus progressiste qui soit, comme on le sait. Après environ, quoi, 10 heures de débat, alors que la moyenne basse, c'est 30 heures pour un texte. Gros chat satanique dans la gorge, pardon. Alors espérons que les députés qui vont examiner cette proposition ne seront pas, eux, abusés par cette menace sur la compétitivité française et que votre proposition écocide prendra... du plomb dans l'aile. Cette petite abeille porte le nom de Rassra. Petite, oui, mais mortelle Rassra, qui n'a vraiment peur de rien, car elle sera morte demain. Merci.
Wow, merci Priscilla pour ce changement d'univers, toi qui tenais à nous surprendre. Quelle puissance de mots. Et ça, c'est une manière de parler de biodiversité ravagée et merde. Et donc, on peut... en plus, toi, tu dis finir ta chronique à l'arrache. Moi, je trouve que c'est pas...
Ouais, c'est
plutôt pas mal, plutôt russe.
Merci.
Et faut Adeline, c'est...
Ah, j'ai un petit
peu de pression, là. Pour passer après, ouais, après cette, cette chronique si percutante. Je te laisse la main, toi, tu veux.
Un petit peu la pression.
Non, mais mets une petite blague de cul, ça passe toujours.
Et ben moi, c'est un autre univers, quoi. Un peu différent. Donc, impossible de passer à côté de ces informations outre-Atlantique et impossible de passer à côté de tous ces décrets comme celui d'interdire l'extrémisme de genre. Donc moi, ça m'a donné l'envie de parler d'un artiste, justement non-binaire, libéré de toute contrainte de genre. J'avais envie de parler de Kate Tempest.
Merci d'ailleurs pour ta reprise tout à l'heure. J'ai dit auteur.
Ah. Autrice. Oui, là, pour le coup, c'est assez important. Donc, de cet artiste touche à tout, qui sait marier les mots avec brio. Kate Tempest, c'est un peu une artiste comme ça, un peu ovni, aux multiples talents, et qui, à la lecture de ses textes, à l'écoute de ses morceaux, en le la voyant en concert, on ressent sa force et son aura qui plane au-dessus de la foule. Donc j'avais envie de vous parler de poésie, donc notre univers, de slam, de spoken word. Et pour se mettre dans l'ambiance, voici un morceau qui me touche beaucoup de son album Line in the Curve, qui s'appelle Grace.
It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea, as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life. The beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation. That was something to see. And my friend told me death is like taking off a tight shoe. And when I stopped looking for me, I was able to find you. Right there where everything is transcendent. I can feel myself opening up. Getting closer, no hope is enough. I've stopped hoping, I'm learning to trust. I came to under that red moon. I was completely crushed. Please use me, please move through me. Please unscrew me, please loosen me up. Make music with me, make everything stop. Make noise and make silence with me. Make love. Let me be love, let me be loving. Let me give love, receive love and be nothing but love. In love and for love and with love. In love and for love and with love. Surrender, I do surrender. Move through me and feel me get out of the way. And tune into something more deep and reflective than what's to be achieved or perceived or affected. What's my problem? I'm always drawn back to that wrestling match. 10 thoughts in the ring of my mind playing catch. I can't live for the noise in my head. I just want to dig a big ditch in the soil of my breath and bury my brain there. But love said, if you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. But if you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you. It was Grace, stunned by the last light of the sun, swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life.
Alors moi, je sais pas vous, mais moi, ça me donne des frissons. Et pour revenir à Kate Tempest, pour expliquer qui elle il est. Donc c'est un auteurice né en 85 à Brockley, dans une banlieue populaire londonienne, dans une famille de 5 enfants, d'un père ouvrier qui deviendra avocat en suivant les cours d'histoire. Et elle est fascinée par les mots. C'est son professeur d'anglais qui, à la lecture de ses premiers poèmes, l'encourage à persévérer dans son travail d'écriture. C'est donc à l'âge de 16 ans que Yael a fait ses débuts dans le monde du rap, du hip-hop et interprète ses propres textes. Il se fait connaître via des tournées de spoken word. Alors je ne sais pas si vous connaissez le spoken word, moi je ne savais pas, mais...
C'est comme du slam ?
Ouais, c'est ça.
Que je me disais.
Donc c'est souvent comparé et confondu avec le slam. C'est un mouvement d'expression poétique peu connu en France, plus aux États-Unis, qui mélange le théâtre, la poésie et la chanson. Donc il y a très souvent des collaborations avec d'autres formes d'art comme la musique, le théâtre ou la danse. Le spoken word se concentre essentiellement sur les mots eux-mêmes, la dynamique, le ton de la voix, les gestes et les expressions. Donc Kay Tempest, c'est une fervente adepte du spoken word avec des textes puissants. Dans son dernier album, Line the Curve, Yael évoque le lâcher prise, la honte, l'anxiété, l'isolement et l'abandon, mais aussi la croissance et l'amour. Ce lâcher prise est palpable tout au long de l'album à travers la musicalité et le lyrisme des chansons. Et Kay Tempest ne s'arrête pas là. Yael a écrit des recueils de poésie, des romans et même des pièces de théâtre. On pourrait citer son livre « Étreins-toi » où Yael révisite le mythe de Tirésias, né homme et devenu femme, où le thème du genre est le fil conducteur du livre. Mais aussi dans son dernier livre « Connection dont j'aurais aimé vous lire un petit extrait. Donc j'y vais. Donc « Ne sois pas trop dur envers toi-même. Tu ne peux pas être tout le temps dans la réalité du moment. En revanche, plus tu te concentres sur ton expérience et plus grande sera ta conscience de cette expérience, plus profonde l'immersion et la connexion n'en sera que facilitée. Alors lâche ton portable, écoute les oiseaux, fais un feu dans un coin tranquille, sois attentif aux détails quand tu embrasses la personne que tu aimes, quand tu traverses la rue, que tu remplis la gamelle du chat ou que tu achètes des tomates, quand la situation devient floue, change de vocale. Tu ne peux pas changer de focale, alors n'en change pas. Je dois, ça n'existe pas. Il le faut, ça n'existe pas. Simplement, j'essaie, je choisis. Marche sous une pluie battante, les épaules bien droites. Inspire à plein poumon, expire lentement, sois attentif aux détails. Quand tu t'es fait virer de chez toi et que tu dois dormir dans le parc, quand tu veux conduire les enfants à l'école mais qu'ils ont planqué leurs chaussures alors que vous êtes déjà en retard et que l'un d'eux s'est peinturluré de feutre bleu, sois attentif aux détails quand tu lances une cagnotte en ligne pour ta torsoplastie, quand tu te sens apathique, change de focale. Sois attentif aux détails quand tu démarres en marche arrière avec un accès de colère et que tu prends un poteau, pardon. Quand une odeur te rappelle un ami décédé et que tu suis son sillage un moment dans la rue, fais une virée sur la côte et admire la mer. Promène-toi en forêt au petit matin. Passe une journée entière sans dérivatif. Personne ne fait grand cas de ce que tu as dit, ni du ton que tu as employé pour le dire. Tous ces gens sont trop occupés à se prendre la tête sur ce qu'ils ont dit, eux, ou sur le ton qu'ils ont employé. Mais s'ils s'étrient sur les réseaux sociaux, s'ils n'en veulent qu'à eux-mêmes et par ailleurs ce n'est pas l'opinion des autres qui te définit, qu'est-ce qui te définit alors ? Cet instant précis, là, maintenant, lâche prise. Donc ce livre a été écrit en pleine crise de Covid. Kay Tempest prend la plume et nous incite à nous émerveiller et à créer du lien. Yael dit l'urgence de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à la réalité, pour que jaillisse l'étincelle de la création, source d'élan vital, une voix qui porte, cogne parfois et une grâce hors du temps. Merci à vous. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete.
Let's push more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs, chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl, hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Let me let go.
Flash on the past, what's so special? Ghetto in the universal. Roll onto the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the bones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults. More relief, more push, more new. Yes, yes, understand how to earn. And you taught me how to earn, so I can't forget you. Travel land, mind, rubber land, let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? This is still all the watch from cars sitting on top of your car. We don't know.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Magnifique, merci Adeline pour cette rencontre avec Kay Tempest. Nous arrivons déjà à notre dernière chronique de la soirée et c'est Morgane qui nous rejoint pour nous parler BD. Mais enfin, dis-nous tout. Tu nous as pas spoilé là depuis le début de l'émission.
Bah oui, parce que d'habitude je vous parle de musique ou de cinéma. Mais voilà, comme vous avez pu le constater, mes nouvelles recrues m'ont devancée, voilà. Je vais donc vous parler BD aujourd'hui. Vous m'excuserez, hein, je sors de ma zone de confort. Enfin, je ne suis pas une pro, alors parler de zone de confort peut paraître un peu présomptueux. Bon bref, je sollicite votre indulgence ici ce soir. J'ai donc décidé de vous parler d'une BD que j'ai découverte en 2023 lors du festival de BD du Pays de Château-Gontier. J'accompagnais notre chère Caroline pour chercher des artistes à interviewer. J'ai très vite fait la rencontre d'une artiste, Zelba, qui a accepté notre invitation. En quête de sa dernière œuvre, je tombe donc sur sa BD, qui s'appelle Le Grand Incident. Dès les premières pages, j'ai ri. Et j'ai trouvé fabuleux le fait de tomber par hasard en plus sur une BD féministe. La rencontre avec Zelba était donc géniale, parce qu'en plus, elle est géniale. On a beaucoup discuté. Je vous fais une présentation rapide. Alors Zelba, elle est née en 1973 à Aix-la-Chapelle, qui à l'époque de sa naissance se trouve en République fédérale d'Allemagne. En réalité, sans son pseudonyme, elle s'appelle Wiebke Petersen. Au moment de la réunification, elle est championne du monde junior d'aviron. Voilà, spéciale dédicace à Louane et Cécile. Elle fait ses études aux Beaux-Arts en Allemagne, puis elle intègre l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne grâce au programme Erasmus. Voilà, et elle est en France depuis ce temps-là. Dans nos discussions, elle insiste sur le fait qu'elle est autrice. Voilà, on en parlait là tout à l'heure. Et non auteureux. Ce mot a été gommé des dictionnaires comme d'autres mots féminins, car les femmes, à l'époque, n'avaient pas à écrire. Elle souhaite que ce mot revienne dans le jargon, tout comme le mot « auditrice ». Allez, on écoute un petit morceau de cette fameuse interview.
Votre dernière
idée. Morgane, tu peux nous en dire un peu plus? Elle a été surprise en parcourant les premières pages.
Elle rigole, c'est bon signe.
Elle rigole, elle a bien rigolé. Là, c'est hyper bien, regardez ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus?
Ah non, j'ai lu que quelques pages, mais y a beaucoup d'humour déjà. Et puis, je suis venue vous voir tout à l'heure. C'est un peu féministe quand même. Hein. Puis, j'ai aimé votre réponse.
Pas qu'un peu.
Non, mais c'est totalement. OK. Bah,
c'est totalement antipatriarcal, oui. En fait.
Mais oui, j'aime bien cette idée que les hommes doivent se déshabiller à l'entrée du musée. Ils ont un petit bac chacun. Et puis les jeunes enfants mineurs, non, et eux, ils peuvent garder leurs vêtements. Ouais. Donc moi, je suis juste arrivée à la page où le petit monsieur, bah, il veut garder son écharpe parce qu'il est un petit peu malade. Enfin voilà. Mais ouais, j'aime bien cette idée.
Et comment elle vous est venue, cette idée de déshabiller les hommes à l'entrée du musée ?
Alors tout d'abord, c'est un livre, c'est une invitation. Par donc mon éditeur chez Futuropolis et par les éditions du Louvre. Donc il y a cette collection Louvre chez Futuropolis qui a maintenant 20 ans déjà. Et quand on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'autrices dans la liste. D'ailleurs, quand j'ai eu l'invitation, il n'y en avait pas du tout.
Vous êtes la première, du coup ?
D'autrice seule aux commandes. Il y en a une, il y a Judith Fadisendal qui a sorti une BD dans la collection 6 mois avant moi. Mais à l'époque de l'invitation, et ben j'épluchais la liste des auteurs et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de femmes. Et après, j'ai commencé à lire un petit peu sur l'histoire du Louvre et je me suis dit, tiens, en 230 ans d'histoire du Louvre, il n'y a jamais eu de femmes à la tête du Louvre, toujours que des mecs. Et quand on va au Louvre et on cherche les femmes artistes, eh ben on peut chercher, on peut beaucoup chercher, parce que je le raconte dans le livre, qu'il y a une petite partie, peut-être un tout petit peu plus didactique vers la fin, pour vraiment contextualiser les choses. Et donc il n'y a que 29 femmes peintres exposées au Louvre.
Combien d'artistes ?
Ah non, mais c'est bah, vous voyez non, bien bah, la taille du musée.
Oui, donc, oui, mais c'était pour avoir une proportion.
C'est énorme.
Voilà, donc ça doit être 1%, quoi.
Ça doit être un 0,0%.
Non mais c'est très peu, et ça nous parle aussi de je le disais tout à l'heure quand on discutait de cet art fait par des hommes pour des hommes, parce que les commanditaires étaient des hommes, les artistes étaient des hommes, et forcément l'image de la femme qui était véhiculée par l'art ancien, par les toiles, par la sculpture, et bien c'était très souvent la femme nue dans des poses de soumission, d'attouchement non consenti, d'humiliation parfois, et c'était toujours sous contexte de scènes bibliques ou de la mythologie. Et donc voilà, moi j'ai voulu parler du nu dans l'art, mais surtout aussi de la sexualisation de la nudité féminine dans notre société aujourd'hui. Je parle de harcèlement de rue.
Voilà, au cours de cet entretien, elle nous apprend aussi qu'elle a eu carte blanche et un badge pendant 2 ans pour venir quand elle le souhaitait au sein du plus grand musée du monde. Elle pouvait donc travailler autour des œuvres, rencontrer les personnes, faire des photos, des croquis, au sein même du Louvre. J'ai beaucoup aimé la BD, j'ai beaucoup ri. C'est aussi un beau livre, hein, comme vous avez pu voir, les filles. Hein. Il est orange fluo. En résumé, ça se passe à Paris, aujourd'hui. La crise du Covid n'a pas eu lieu, mais une autre crise localisée au Louvre est appelée par les initiés le Grand Incident, va imposer une fermeture du musée, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Sculptures, peintures, toutes les femmes nues dans les œuvres se dérobent au regard des visiteurs, car elles ne supportent plus les réflexions, voire les attouchements dont elles sont victimes au quotidien. Le président directeur du musée, Charles Ardin, doit se résoudre à fermer le musée, le temps de trouver une explication rationnelle à cette situation irrationnelle. La solution viendra de Teresa, femme de ménage, depuis 30 ans, devenue la confidente des œuvres. Leur revendication pour réapparaître aux yeux des visiteurs va changer à jamais la vie du Louvre. En effet, les hommes peuvent rentrer dans le musée à condition d'être nus. Même les employés et agents de sécurité sont nus. Le Grand Incident est une BD satirique qui nous interroge sur le regard que portent les hommes sur la nudité des femmes dans l'art. Effectivement, le nu féminin dans l'art est fréquemment cantonné aux poses de soumission et d'humiliation. Et au contraire, celui des hommes est montré comme un signe de courage et de force virile. Cet album est donc totalement anti-patriarcal. Dès les premières pages, on perçoit l'humour de l'autrice. Dans le Louvre, elle a imaginé une cabine de redescente émotionnelle. Une cabine de débandade, comme dit la femme d'un visiteur. Le dessin de Zelba est absolument magnifique. Elle apporte une touche hyper réaliste aux œuvres présentes au Louvre et aux différents personnages de l'histoire. La nudité est présente, mais à aucun moment on y voit de la vulgarité. En plus de faire réfléchir, cette bande dessinée est instructive dans le domaine de l'art. L'originalité est partout dans cette œuvre. La révolte des œuvres d'art qui se mettent à disparaître aux yeux du public est très pertinente, mais bon, un peu déroutante au départ. J'ai aimé le fait que ce soit une femme de ménage aussi qui comprenne leur détresse et apporte la solution. Voilà, c'est une fable burlesque et fantastique comique, c'est son mot. Ça vient d'elle. Zelba ne voulait pas jeter la pierre au Louvre, mais elle voulait dénoncer une époque, des aberrations avec un œil décalé et tendre. Comme elle dit, elle ne tape que sur les hommes qui le méritent. Elle n'est pas moralisatrice, elle veut seulement pointer du doigt. Donc ce n'est pas un appel à censurer, mais elle aimerait que ses œuvres d'un autre temps soient mieux expliquées. Donc là, ce n'est pas un homme qui tient une femme avec force, non, non, c'est un viol. Elle a écrit ce livre car elle en a marre de ses harcèlements de rue, ses réflexions sexistes. Et donc là, je vais citer ce qu'elle écrit dans son dossier à la fin de la BD, comme elle disait dans l'interview. « Je suis choquée, un peu, parce que cela m'arrive encore aujourd'hui à l'aube de la cinquantaine, beaucoup. » Parce que ma fille doit subir ces mêmes comportements qui n'ont pas évolué depuis 30 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. À la folie, parce que cela ne choque plus ma fille, tellement elle a déjà intégré les manifestations sexistes de ce système patriarcal tenace où une vraie égalité peine à se faire. Où les hommes détiennent encore trop de pouvoir et où sans cesse les femmes doivent prouver leur légitimité. C'est démoralisant. Fin de citation. Alors pour l'anecdote, hein, quelqu'un m'a soufflé dans l'oreille que cet album n'avait pas plu à tout le monde. Donc voilà, le partenariat entre le musée du Louvre et la maison d'édition Futuropolis, c'est terminé. Comme quoi, les choses ne sont pas encore prêtes de changer dans ce milieu. Donc bravo, un grand bravo à Zelba en tout cas pour son action. C'est assez exceptionnel de faire de l'humour avec des sujets très sérieux. D'ailleurs, en 2021, elle racontait notamment le moment à la fois intime et douloureux de la perte de sa maman. Le jour de la mort de Vincent Lambert, le 11 juillet 2019, elle décide de raconter les derniers instants de la vie de sa maman et le fait qu'elle et sa sœur aient accepté de l'assister à mourir. C'était important pour elle de témoigner et de partager son expérience. J'ai donc mis dans ma liste de livres à lire sa BD « Mauvaise fille ». Voilà donc un joli cadeau à faire à ces messieurs, mais également aux dames, qui méritent bien ce plaisir. Et je finirai par la devise de Zelba, glisser dans le dossier, se confronter, réfléchir, transformer et partager. Mmh. Et voilà, et je vous laisse avec Cindy.
Je reprends les mots d'Amandine. Ouais, ça fait vraiment toujours du bien d'écouter Cyndi Lauper. Merci Morgane pour cette chronique et ce choix musical. Et voilà, notre heure ensemble touche déjà à sa fin. Une heure de découverte passionnante où nous avons voyagé entre les univers de chacune de vous et toutes liées par une forme d'engagement, quel qu'il soit. Merci à Amandine, Priscilla, Adeline, Morgane pour leurs mots, leurs choix, leur énergie. Merci à Stéphanie pour ta présence, tes encouragements à la technique.
Merci aux chips.
Merci à ceux et celles qui nous écoutent, vous qui prenez part à cette aventure radiophonique. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à nous écrire. Toutes les émissions sont à retrouver sur le site de L'Autre Radio. Sorcière revient le mois prochain avec d'autres voix, d'autres histoires, d'autres colères et d'autres espoirs, qui sait. Bonne soirée.
Bisous, bisous.
Bisous.
Salut.
Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme. L'homme détruit Dieu. L'homme crée les dinosaures.
Les dinosaures mangent l'homme. La femme hérite de la terre.